D'abord une question sur ton parcours. Comment on devient photojournaliste? C'est d'abord une passion ou c'est ton métier d'abord?
Non, c'est d'abord une passion. Hein. Je faisais des photos noir et blanc à la maison. J'avais un petit laboratoire dans mon cagibi. Et puis je développais, je faisais des tirages. Voilà. Et puis j'étais étudiant. Voilà. Donc la photo, ça commençait comme ça. Puis après, comme j'étais très curieux, j'avais envie de raconter ce que je voyais. Et ça s'est un peu imposé. Là, j'étais toujours étudiant. Et puis j'ai passé un concours pour faire une formation professionnalisante à Paris. Et là, c'est devenu un métier.
Ouais. Tout à l'heure, dans ton intervention devant le public ici à l'Office culturel, tu parlais un peu du métier de journaliste avant de la photo, de photographe. Hein. Tu disais que la photo, c'était un média intéressant pour faire passer des idées. Comment tu travailles, toi? Tu travailles avec d'autres personnes ou seul ou...
Alors actuellement je suis indépendant, c'est-à-dire que j'appartiens à aucun journal, mais je travaille avec des journaux régulièrement, toujours un peu les mêmes, donc de la presse locale comme le journal gratuit 20 minutes à Lille, ou alors la presse nationale comme l'hebdomadaire VSD ou Pèlerin, il y a aussi l'hebdomadaire Liberté Hebdo à Lille, donc que ce soit national ou local, finalement c'est toujours des journaux, et le travail lui c'est le même, c'est-à-dire d'aller faire l'enquête, trouver l'information qui va pouvoir intéresser le lecteur, qui m'intéresse moi d'abord, parce que je fais d'abord ça, et puis après on diffuse le reportage, texte et photo. Alors soit je fais le texte aussi, soit je fais que les photos, on travaille souvent à deux, c'est comme ça dans la presse, il y a un journaliste qui fait le texte et un journaliste qui fait la photo. Voilà. Alors aujourd'hui avec la modification des techniques, le son, l'image animée, l'internet, on est en train de vivre une révolution. Donc je ne sais pas demain ce que sera la presse écrite, hein. Il y a des gros problèmes, mais bon, jusqu'à présent ça a l'air de continuer à fonctionner, mais bon, je pense qu'il va falloir un petit peu évoluer aussi dans les techniques, quoi.
Ok, bon, on en parlera justement, j'ai une question dans ce sens. Tu as l'air de dire que bon, tu choisis vraiment tes sujets, bon, il y a quand même aussi une part de commande. Quelle part en fait ça fait ça de ce que tu veux faire? Est-ce que finalement on t'impose, quoi?
Bah, en fait, le problème des sujets qu'on choisit soi-même, c'est qu'ils n'ont pas forcément suscité l'intérêt dans les rédactions. Donc, c'est plus souvent des sujets qui sont refusés. Donc, pour 20 sujets proposés, il va y en avoir un qui va intéresser. Par contre, ce qu'on peut faire, bon, là, ici, il y a un sujet sur le Népal. C'est un sujet qui m'intéressait, moi. Donc, j'ai fait un premier voyage tout seul. Je suis retourné voir les journaux. Ils ont vu le travail, ils ont trouvé ça pas mal, mais en l'état, ça ne suffisait pas. Donc, on a travaillé sur une idée qui pourrait convenir au journal et qui pourrait me convenir à moi. Voilà. Et là, du coup, je suis reparti en commande. Donc j'ai transformé un projet personnel en commande. Les mains, par exemple, on va prendre les photos qui sont sur les murs, c'est un travail qui a commencé par une commande d'actualité. Avant la présidentielle, le magazine VSD me demande de couvrir une lutte sociale dans une usine pour montrer un peu la France des déshérités. Suite à ce reportage, on s'aperçoit qu'il y a possibilité de faire un travail de suivi sur cette usine particulièrement. Et là, on me dit, Olivier, on te laisse carte blanche et à toi de monter le sujet. Donc ça devient un sujet personnel parce que c'est moi qui ai anglé les différentes phases du reportage, trouvé les personnages, et il y a un journaliste parisien qui venait pour le papier. On a été jusqu'en Pologne comme ça avec. Donc c'est pareil, c'est au départ une commande qui là du coup devient personnelle. C'est un peu l'inverse, hein. Et pour les Kurdes là par contre c'est plus personnel. Il y a eu très peu de commandes parce qu'en fait en France les journaux connaissent pas bien le Kurdistan, et là c'est que moi qui propose le truc sur les Kurdes, quoi. Voilà. Alors après, pour des journaux comme le journal gratuit 20 minutes, là c'est un quotidien, on propose rarement des sujets quand on est photographe. Il y a certains pigistes qui participent à la rédaction en texte qui eux proposent des sujets, et pour les photographes comme moi, là c'est plus des sujets de il y a une actualité le jour même, il faut aller faire la photo pour illustrer le journal du lendemain. Donc c'est un travail de rédaction. Mais ce qui est bien, c'est de faire justement un peu tout, quoi. À la fois des choses très personnelles et puis des sujets de commande tout simples.
Alors je reviens sur les trois séries qui sont présentées ici à l'Office culturel. Un mot sur chacune d'entre elles. Donc au Kurdistan, la démarche, c'est de faire des photos avec des réfugiés kurdes sur les lieux où ils ont été emprisonnés, c'est ça?
Alors entre autres, hein, y a pas que ça. Là, y a vraiment une... beaucoup de sujets abordés. En fait, je voulais absolument, parce qu'on m'a invité à exposer des portraits, montrer ce travail sur les Kurdes, parce qu'il n'a pas beaucoup l'occasion d'être démontré. Comme je le disais à l'instant, dans la presse, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, il y a plusieurs axes. Donc, un sur les prisonniers politiques. Il y en a un autre. Alors ça, c'était lié à l'histoire de l'Irak avec Saddam Hussein qui a persécuté son peuple. Et donc faire un témoignage, comme vous pourrez voir dans n'importe quel pays où il y a eu des dictatures, des anciens prisonniers qui viennent témoigner de leur histoire et qui essayent de raconter comment ça s'est passé pour la postérité, quoi. Après, les migrants, donc là, c'est quelque chose qui nous touche nous directement parce qu'on les voit passer. Donc savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font là. Ce qui m'intéressait, c'était l'identité, c'est-à-dire que les gens qu'on voit sur les routes de la migration, on les voit souvent sales, mal rasés, l'air pas forcément joyeux, alors qu'en réalité, c'est des gens qui peuvent être comme nous dans leur vie quotidienne totalement différents, quoi. Ils sont, quand on les photographie chez eux, comme j'ai eu l'occasion de le faire, bah, ils sont bien habillés, bien propres sur eux, ils font attention quand ils reçoivent des invités. Voilà. Et donc, en fait, souvent, on les montre comme des bêtes traquées, mais c'est pas vraiment eux. Quoi. C'est eux, dans un temps un peu éphémère, pour eux le plus court possible, mais souvent ça dure un peu trop longtemps, certains en meurent, hein, ces voyages-là, mais ils aspirent pas à rester comme ça, quoi. Et nous, on a cette image d'eux, souvent, et c'est tout. Et l'idée d'aller les photographier au Kurdistan, c'était aussi montrer qui sont vraiment ces gens-là, quoi. C'est-à-dire, finalement, la même personne, on va la voir à Calais ou on va la voir à Soleimani, on la reconnaîtra pas, alors que c'est la même personne à l'intérieur. C'est juste à l'extérieur que bah, le contexte fait qu'ils n'ont pas le même regard, ils n'ont pas le même, le même accoutrement, et pourtant c'est bien la... Alors bon, le voyage transforme aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'ils sont arrivés à destination, ils ont aussi changé à l'intérieur, du fait du voyage, quoi. Mais là, ce qui m'a paru intéressant, c'est que comme il y a un phénomène migratoire en retour, en fait, c'était de pouvoir les refotographier quand ils sont rentrés chez eux. Et on voit comme ça tout un chemin. On a une persécution politique, donc on fuit, on va en Europe, et après on revient. Donc en fait, l'expo raconte ça, en 3-4 images, quoi.
Alors un mot sur ce travail à Calais. Bon, en même temps, la situation des migrants à Calais, finalement, elle apparaît relativement peu dans la presse, hein, par rapport à la situation de ces migrants. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de journalistes sur place quand même pour essayer de couvrir des papiers ou des photos ou des films qui paraissent pas forcément et puis qui parfois se heurtent à peut-être même dans certains cas à une brutalité policière, il faut le dire, quoi.
Alors en fait, ce qui se passe avec ce sujet, qui est un sujet récurrent, c'est qu'il fait l'actualité quand il y a des moments dramatiques, des moments politiques forts. Bon, la fermeture du centre de la Croix-Rouge, c'en était un. Son ouverture, c'en était un. Des décisions des gouvernants, des visites de ministres, des décisions de fermer la frontière côté anglais. Voilà, donc ça, c'est une actu qui va être internationale, qui va être au niveau européen. Donc ça va faire la une des journaux. Mais le quotidien, le travail jour après jour, qui est tout le temps le même, finalement, dans la presse, on le voit pas. C'est comme on parle toujours des trains qui arrivent en retard, jamais des trains qui arrivent à l'heure. Bah là, la misère au quotidien, le problème de ces migrants qui crèvent de froid, crèvent de faim, qui ont des maladies, des Français qui les aident, des policiers qui les traquent, tout ça, bon, bah, on le voit une fois. Et puis les journaux passent à autre chose, parce que sinon on en parlerait tous les jours. Et c'est la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont sensibles à ça, et qui viennent, ils viennent comme les vagues de migrants, il y a des vagues de journalistes, et ce qui est très dur pour un journaliste, c'est de traiter le même sujet 10 ans de suite, sans avoir l'impression de dire toujours la même chose. On s'épuise en fait, on perd le moral, on se dit mais je l'ai déjà dit ça comment, et puis ça n'a pas changé les choses, alors pourquoi est-ce que je continue? Et donc on passe aussi à autre chose, parce qu'on est un peu fatigué de répéter sans arrêt les mêmes choses et de ne pas être entendu, mais heureusement il y a des nouveaux journalistes qui recommencent, et puis d'autres qui recommencent, puis après on y revient avec un peu de perspective, de recul. Donc moi comme ça, à un moment j'y allais très très souvent, j'ai passé des nuits là-bas, après j'y suis moins retourné, puis comme j'avais travaillé que je travaillais avec des journaux qui me faisaient confiance, ils avaient eu connaissance de cette première approche, ils m'ont demandé d'y retourner, et puis ça marche comme ça avec tous les journalistes qui vont, alors que ce soit de la radio, de la presse écrite, tous les styles des journaux étrangers. Moi, quand à chaque fois que j'y vais, je rencontre plein de journalistes, et à chaque fois c'est une claque, quoi. Le dernier reportage, donc c'était il y a quelques semaines, et j'en ai pleuré en fait, parce que j'ai vu des choses que je pensais que j'avais déjà vues, et en fait non, c'était encore plus fort, encore plus dur, et on s'habitue jamais en fait, hein. Je racontais pendant la petite allocution l'histoire de cette jeune érythréenne enceinte, on peut pas regarder ça sans être révolté, quoi.
L'anecdote à laquelle Olivier fait allusion, c'est l'histoire de cette jeune érythréenne enceinte qui occupait avec d'autres migrants un squat à Calais. La mairie de Calais a fait vider ce squat, un entrepôt jugé insalubre. Tout le monde s'est donc retrouvé dehors. Et puis ce qui a choqué tout le monde et aussi les journalistes, c'est le fait que le lieu ait été nettoyé par les services de la mairie après l'occupation par les migrants. Donc finalement, on a été capable de nettoyer les lieux, mais jamais pendant que les migrants étaient présents, uniquement une fois que tout le monde a été vidé. Un peu comme si on avait affaire à des animaux impropres et pas à des êtres humains. On continue d'écouter notre entretien avec Olivier Touron, photojournaliste. On parle justement de ces informations qui passent ou qui ne passent pas auprès des médias et du grand public.
On travaille pas pour la presse, on travaille pour les lecteurs. On travaille aussi parfois en se disant, bah, si ça aboutit pas aujourd'hui, ça aboutira demain. Les photos sont là, les textes sont là, les interviews sont là. Puis un jour, bah, on est invité à l'Office culturel d'Arras et puis on peut le montrer. Et on est bien content d'y être allé quand même.
Ouais, un mot sur les deux autres séries. La série avec les mains. Donc là, en fait, c'est des portraits de femmes qui ont été licenciées, qui travaillent dans une usine, c'est ça?
Voilà, c'est des ouvrières du textile dans le Valenciennois qui ont perdu leur emploi parce que le donneur d'ordre, qui est Bernard Arnault de LVMH, hein, a décidé que ça coûterait moins cher d'aller faire produire les vestes de luxe qu'elle s'est fabriquées depuis des dizaines d'années dans les pays de l'Est. Voilà, donc c'est vraiment du gérer des capitaux en disant que là, c'est plus rentable. C'est pas une question économique parce qu'ils perdaient pas d'argent, hein, mais c'est vraiment un choix stratégique, quoi. Pour gagner encore plus d'argent par rapport aux actionnaires. Donc ces femmes ont été un peu sacrifiées sur l'autel de la délocalisation, hein, de la mondialisation, et il fallait témoigner de ça. Et faire des portraits des ouvrières, bon, j'ai déjà fait ça aussi dans des reportages, l'homme devant sa machine, ou la femme devant sa machine, voilà, comme j'ai pu faire poser les gens, avec le regard dans l'objectif, qui essaye d'interpeller celui qui va regarder les photos. Là, c'était différent, on disait toujours les petites mains du textile, donc j'ai décidé de photographier les mains, et j'ai essayé de toutes les photographier. Ça n'a pas été possible, parce qu'il y en a qui étaient en arrêt maladie, en formation, mais toutes celles qui étaient dans l'usine, dans les jours où j'y étais, sont passées devant l'objectif. Il fallait vraiment, l'intérêt, c'est que il y a beaucoup de mains pour que ça couvre. Et même derrière, il y avait l'idée que ces mains-là pourraient être exposées en beaucoup plus grand encore pour essayer d'interpeller la population, les élus, en disant ben, « on existe ». Comme on lève la main pour interpeller, c'est très évocateur. Quoi, une main, voilà. Donc, c'est...
Alors, tu t'es beaucoup impliqué apparemment dans ce sujet-là, et puis tu as noué des liens forts quand même avec ces ouvrières. Est-ce que tu les suis encore
Alors justement, il y en a une d'entre elles que j'ai invitée à venir ici, enfin plusieurs que je connais bien, parce qu'elle a beaucoup porté cette lutte. Malheureusement, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours pour lui dire « Écoute, on fait le truc à Arras ». Elle est en formation là, de reconversion pour devenir conductrice d'ambulance. Et,
merci, au revoir.
Et elle s'est cassée la jambe bêtement en allant à la patinoire avec des amis. Et elle a une broche et donc elle ne peut pas bouger. Et donc je lui ai promis de venir lui apporter le grand tirage qui est dans la grande salle, parce que c'est pour elle que je l'ai fait en fait, où on voit son poing serré, pour lui offrir quoi, tout simplement. Donc oui, j'ai gardé contact. On peut pas passer. J'ai passé plus de 6, presque 7 mois. À suivre ces personnes, pas toutes, hein. C'est une petite poignée avec qui on a vraiment noué des liens. Les autres, bon, bah, y a une estime. Bon, elle voyait un photographe journaliste venir, elle se demandait un peu ce que je foutais là quand même, hein, parce que pour elle, je servais à rien. Je faisais encore un reportage pour la presse, ça allait pas changer leur sort, elles allaient quand même perdre leur boulot, donc c'était vain. Mais je pense que moi, ça l'était pas. Je pense que ces traces-là, elle restera. Et, ça sert à raconter aux gens quoi, comment ça se passe, et ça peut aussi après faire peut-être bouger les mentalités, quoi. Enfin, j'espère.
Alors, troisième série qui est présentée ici, donc c'est au Népal, une série de portraits pris au moment d'un changement politique important, donc l'arrivée de la République au Népal.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que juste avant l'arrivée de la République, il y a eu une sorte de révolution, hein, une guerre civile qui a duré une dizaine d'années. Et donc le Népal, qui était une monarchie, a fait par la force, hein, par l'armée, abdiquer le roi. Voilà. Et donc nous, on était intéressés pour voir ce moment de transition. Et c'est vrai qu'en reportage, c'est pas évident de montrer une transition. Alors au départ, on s'intéressait quand même pas mal à la monarchie, et qu'est-ce qu'allaient devenir ces gens, et qui est-ce qui allait bénéficier de cette révolution. Alors on a essayé d'aller à la rencontre comme ça de tous ces groupes. Et l'idée, donc il y a eu le reportage, c'était aussi de les faire poser dans un costume traditionnel qui représente leur identité. Hein, donc ça donne une série de portraits très très colorés.
séparés, puisque chaque groupe ethnique a ses caractéristiques, ses bijoux, ses couleurs, et on retrouve ça. Donc, on voit par exemple là, je regarde une photo, c'est un petite famille de chapeliers néoirs, donc ils vivent dans la ville de Bhaktapur, à côté de Katmandou. Donc, ils sont des communistes, eux. À côté, on a une famille de Sherpas, donc qui sont originaires des pentes de l'Everest et qui font du commerce d'alcool, de millet, donc ils vivent aussi à Katmandou. À côté, on a une famille de Chantial, donc qui est une sous-minorité d'un autre groupe qui s'appelle Limbu. Hein, donc ça, c'est un peu complexe, mais c'est rigolo parce qu'on s'aperçoit comme ça que chaque région, chaque petite vallée de ces peuples himalayens a ses racines très très ancrées, et que finalement les 240 ans de monarchie ont maintenu tout ça un peu dans le silence, hein, parce que tout venait du haut, et les maoïstes se sont appuyés sur ces ethnies pour faire leur révolution, et ils ont fait une sorte de deal en disant bah, vous soutenez notre révolution, sous ces gens-là ne sont pas des maoïstes, et en contrepartie on vous redonnera votre identité. Donc il y a une sorte d'accord tacite passé entre toutes ces petites ces petits groupes, enfin, plus ou moins petits, et cette révolution. Voilà. Et donc ça, le reportage transformé en portrait comme ça, ça a beaucoup de sens, évidemment, historiquement.
Alors, on parlait tout à l'heure des moyens de diffusion des reportages. Donc ici, tu fais une exposition. Il me semble que tu fais aussi pas mal d'ateliers en milieu scolaire. C'est important pour toi de trouver d'autres biais aussi que la presse pour faire passer tes images et tes témoignages.
En fait, en milieu scolaire, je fais passer plutôt la passion de la photo. Ouais. L'idée que, surtout, c'est pas tant la technique que l'image permet de véhiculer des choses que l'écrit ou la parole ou la musique ou la danse ne peuvent pas. Et donc, j'essaye de donner aux jeunes l'idée que, pour certains, ils pourront exprimer des choses grâce à leurs photos ou grâce à leurs images dessinées. Voilà. Et donc c'est en ça que j'interviens avec des profs de français, souvent sur des textes. On essaie de trouver des moyens de faire des images pour évoquer des sensations, des sentiments, des émotions, voilà, tout ça. Et je leur parle de mon métier, évidemment, hein, et certains veulent devenir journalistes et tout ça. Mais voilà, au départ c'est ça. Après je fais ça aussi avec des étudiants qui, eux, sont destinés à devenir des journalistes, et c'est plus pour leur donner une corde de plus à leur arc, dire que voilà, vous pouvez aussi faire de la photo pour faire du journalisme. C'est un moyen comme un autre de parler de l'actualité, de donner les informations à vos lecteurs ou à vos spectateurs, pour ceux qui font de la télé.
Alors ici, bon, c'est une expo entièrement en photo. Il y a relativement, bon, tiens, je viens de voir qu'il y a, si, il y a un texte quand même explicatif. Enfin, il y a relativement peu de texte pour expliquer un peu les photos, la situation politique. C'est un truc, toi, qui te... Parce que tout à l'heure, tu parlais un petit peu de travailler sur différents médias, texte, photo, mais aussi son, image. Tu fais cette démarche d'être sur plusieurs, dimensions, mais différents médias.
Alors là, ici, la volonté, c'était vraiment l'image. Hein. Il y a un petit texte quand même pour situer le reportage. Si les gens veulent plus d'infos, ils viennent me voir si je suis là. Ou sinon, il y a mes coordonnées, ils peuvent me poser des questions ou aller voir dans les revues sur Internet. Là, l'idée, c'est vraiment l'image. Qu'est-ce que ça évoque? Déjà, des gens qui connaissent rien, ils peuvent très bien aimer les photos parce que, ils trouvent ça beau. Et à la limite, c'est très bien. Après, s'ils ont la curiosité de savoir ce que ça représente, ça donne une deuxième dimension à la photo. C'est ça que je trouve ça bien. Si on met un texte tout de suite, on a déjà orienté la lecture de l'image. Donc on n'a pas la même perception. Là, les gens sont touchés par l'image, et après, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent, et ils ont une deuxième découverte, quoi. Voilà. Après, moi, personnellement, effectivement, ça m'intéresse, tous ces médias. Je fais essentiellement du texte et de la photo et du texte. Le son, je commence un petit peu. L'image animée, ça serait plutôt l'animation de photos fixes sous forme de montage vidéo. Hein, c'est très, très en vogue en ce moment. Grâce à l'Internet, on a trouvé d'autres moyens de diffuser les photos fixes, hein, plutôt que les mettre sur les murs des expos où les gens doivent se déplacer. Là, ils sont chez eux, ils peuvent aussi voir des expos. Bon, c'est autre chose, c'est pas pareil. Donc, moi, ça m'intéresse de voir comment ça évolue, et j'essaye. Bon, je maîtrise pas encore totalement, mais j'apprends. Hein. C'est tous les jours.
Et comment tu vois, en fait, un peu l'évolution des médias? Bon, maintenant, il y a Internet, la révolution numérique. Donc, l'accès à l'information est plus facile, et puis aussi le journaliste peut utiliser comme ça différents médias. Mais comment tu vois un peu le futur de tout ça, voilà. Donc t'imagines ça, quoi.
Bah, je l'imagine pas, parce que pour l'instant, tout est à créer. Le problème, c'est le modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la formation, c'est une lutte. Les gens y ont accès. Le problème, c'est que le contenu, il doit quand même continuer à être fait de façon correcte et professionnelle. Et ça a un coût. Alors, comme ce coût-là, il y a peu de gens qui sont prêts à le donner, à le mettre, l'argent, on a une sorte d'appauvrissement, en fait, de la richesse des contenus. Et les journalistes, même s'ils ont accès à la vidéo, à la photo animée, au son et tout ça, ils n'ont pas les moyens de faire les reportages et les enquêtes qu'ils aimeraient faire. Donc, en fait, l'enjeu, il est là, c'est de trouver la possibilité de travailler professionnellement et avec des moyens suffisants, et bénéficier de ces nouveaux médias pour le diffuser plus largement. Donc ça serait l'idéal, c'est-à-dire avoir des moyens et bénéficier de ces nouveaux médias pour diffuser plus. Aujourd'hui, on a le moyen pour diffuser, mais on n'a pas le moyen pour produire. Donc c'est très compliqué d'arriver à faire des travaux qui sont... comme là, bon, j'ai la chance d'avoir pu faire des reportages bien rémunérés sur un long moment, mais c'est souvent, on est toujours en train de courir à droite à gauche pour une pige, par exemple, et on n'a pas le temps d'approfondir, parce que économiquement, on n'y arrive pas, quoi. Et c'est ça, l'enjeu, il est là. Après, comment ça va évoluer, si je le savais, je serais content de le partager comme information, ça serait pas mal.